Oui, alors peut-être commencer par Alep, donc un groupe qui travaille sur le cycle 2 d'abord, et le rap a comme la ville d'Alep en Syrie. Donc apprentissage de la lecture et poésie, hein, Alep, et qui travaille donc sur notamment les enfants en difficulté dans l'apprentissage de la lecture pour voir si la poésie peut les aider à entrer donc dans la maîtrise de la littératie. Voilà. Donc, la commande d'abord de repères qui est répercutée ici portait plus, enfin, ou celle que je me suis donnée peut-être, portait plus sur les IO. Donc, mon travail consiste à trois volets finalement à l'heure actuelle. Sur les IO, donc, c'est une version à la fois d'exégèse et historique, d'historicité des IO. C'est pas du tout mon domaine habituellement, mais je l'ai fait. Deuxième, et que je vais vous présenter aujourd'hui, deuxième élément que je suis en train de faire, traitement de 200 questionnaires environ sur les maîtres formateurs. Non, pas sur les maîtres formateurs, sur les maîtres expérimentés dans les classes, comment ils font la poésie, comment ils la conçoivent. Troisième direction, eh bien, c'est de partir des projets dans les classes avec les élèves du cycle 2, et pour me dire que les élèves, ne le prenez pas trop comme une proposition démagogique, vont beaucoup plus loin que les IO. D'une certaine manière, les élèves de CP, donc, peuvent faire beaucoup plus que ne disent les IO. Donc, ça serait la troisième proposition. Dans l'exemplier que je vous ai proposé, il y a deux exemples d'élèves qui sont proposés, l'un sur un atelier d'écriture mené sur toute l'année, et puis l'autre sur un entretien que j'avais mené avec un élève après un travail sur un texte de James Sacré. Donc, vous avez également un texte. Et alors là, je pourrais repartir de ce qui vient d'être dit. Ce texte de James Sacré, je l'ai proposé aussi avec les PE2, et la discussion avec les élèves de CP a été aussi intéressante qu'avec les élèves de PE2, et a été assez proche finalement. Alors, comme introduction, je pars de ce qui s'est passé il y a 15 jours à l'UFM de Toulouse. Alizée, stagiaire de PE2, doit faire chaque vendredi dans son stage filé technologie, sciences physiques, géométrie, EPS, art visuel et poésie. 45 minutes pour la poésie, demande de la directrice, récitation. Elle ne sait pas comment tout loger dans son emploi du temps. Loïc est gêné. On lui a laissé la poésie, il voudrait bien faire de l'écriture poétique, mais il ne peut pas car c'est le directeur qui fait l'écriture. Il ne sait pas comment faire, il se sent en porte-à-faux avec les IO et l'UFM. Sur 31 stagiaires de ma classe actuelle de PE2, une bonne moitié doit enseigner la poésie. Conséquence positive inattendue, les stagiaires sont très demandeurs d'une formation en poésie et d'une conception non cloisonnée de cet apprentissage. On peut en déduire à titre d'hypothèse dans cette introduction, on enseigne ou on veut enseigner la poésie à l'école. Elle existe donc, toujours, c'est une bonne nouvelle. Les directeurs massivement la laissent aux stagiaires, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. La poésie est corrélée le plus souvent avec la récitation. La poésie n'est pas mise en relation avec les autres sous-disciplines du français, nous allons y revenir. La poésie n'est pas mise en relation dans les pratiques ou très rarement avec les arts visuels ou les pratiques corporelles, danse en EPS. Et je me souviens de ce que nous avait dit Siméon il y a peut-être une dizaine d'années à Tours, je pense, sur cette maîtresse dans la région de Montpellier qui travaillait danse contemporaine et poésie. Sixième hypothèse, la poésie n'est pas mise en relation avec une vie de classe prise dans sa globalité, pouvant avoir une influence sur les autres activités, pouvant produire des effets positifs, notamment sur les enfants en difficulté, difficulté de comportement ou difficulté de langage. La faute à qui ? Bon. Alors, je vais analyser tout de suite les IO. Donc, 30 ans d'IO, 30 ans, je me suis dit, tiens, ça fait 37, c'était presque une carrière au temps où c'était 37 ans et demi. Alors, premièrement, quelle est la conception de la poésie et de la langue, explicite ou implicite, qui ressort de 30 ans, de 30 années d'instruction officielle? Les IO de 72, dont je vais parler souvent parce que je les trouve vraiment très intéressantes, citent trois poètes, puis deux poètes. Trois poètes disons, du XXe siècle, Apollinaire et Éluard Supervielle pour la modernité, Hugo et La Fontaine pour le patrimoine. Je vous cite le passage. « Il est sans doute à peine besoin d'ajouter que pour leur donner ainsi accès à la poésie contemporaine, on ne se croira pas tenu de les priver de La Fontaine et de Victor Hugo. » J'en conclus de cette dénégation, donc en 72, on demandait de partir de la poésie moderne ou contemporaine. Même si les notions plus traditionnelles de quantité et d'accent sont reprises plus bas dans ce texte, la poésie ne se confond déjà plus avec les vers rimés et les quantités fixes, car il y a, dit le texte, des rythmes non traditionnels. Rythme, j'entends benveniste, j'entends méchonique, dans les années 70, contemporain. L'approche de la maîtrise de la langue à l'école est plus stylistique, rhétorique, formelle d'une certaine manière. Est-ce une définition que les auteurs proposent de la poésie ou est-ce une réduction didactique contrôlée? Je cite. Ce sont toutes opérations formelles mises en jeu dans ce type de texte qui peuvent être progressivement découvertes. En premier lieu, dans les poèmes appris par cœur, l'enfant peut très tôt sentir des configurations sonores particulières qui engendrent la poésie. Enfin, les jeux proprement stylistiques paraissent aussi très directement accessibles à l'enfant, peut-être de manière plus évidente encore lorsque s'articulent lecture et production de textes. C'est peut-être la fin de la phrase qui était la plus intéressante. Le modèle de référence devient double dans ces années 90. La poésie traditionnelle d'un côté, hein, donc d'avant 1860, et on en est toujours là à beaucoup d'égards, et les jeux de l'Oulipo. L'Oulipo, donc, comme second modèle proposé aux enseignants. La ligne des documents d'application des programmes littérature de 2002 serait à peu près sur la même ligne si la contradiction n'était amenée de l'intérieur par les fameuses listes génériques de 2002, modifiées en 2004, qui, renouant avec l'exemplification de 72, donc, redéfinissent le champ. Alors, on ne va pas entrer dans le détail, mais je crois que ce serait intéressant. Il y aurait une belle étude à faire. Donc, il y a toujours les classiques, Victor Hugo, quelques auteurs consacrés du milieu du XXe, Charles, Queneau, Prévert, Guivic, et beaucoup de contemporains vivants. Ce qui est la grande nouveauté, Le Clésio, en poésie, Sacré, Siméon, Dumortier et d'autres. La présence importante de la collection Grandir de Chêne Éditeur montre que les proses, les thèmes prétendus apoétiques et l'illustration, c'est-à-dire le rapport texte-image, sont maintenant pris en compte. Et que d'une certaine manière, le rapport de la poésie et de la littérature de jeunesse fictionnelle, la narration, pourrait être revu à nouveau frais. N'y a-t-il pas une continuité poétique entre ces poèmes et certains albums de Ponty, de Poncelet, Crowther, Herbault, certaines pièces de théâtre, Pie, Papin, Lebeau, Zambon, qui n'est pas dans les listes, ils ont tort, et beaucoup d'autres. Première conclusion sur ce point. Vous l'avez sur votre trame, je crois. La modernité dans les textes est en pointillé, toujours en concurrence avec des concurrents, avec des conceptions anciennes, formelles notamment. C'est dans la liste des ouvrages recommandés qu'elle émerge vraiment. Auteur récent, la poésie ne se confondant plus avec les vers, enfin, hein, entre ouverture à d'autres langages visuels et peut-être à un autre genre, le narratif. Deuxième point, la notion de genre reste très forte. Peut-être est-elle nécessaire en didactique, mais le risque est de faire de la poésie un ailleurs de la littérature. Troisième point, la notion d'écart. Je relisais ce matin avant de venir dans mon hôtel Montesquieu, froid, etc. Il y a la notion d'écart, toujours, en 2002, tellement combattue par Méchonic, notamment. La notion d'écart, d'effraction, est toujours prononcée. Donc, par rapport à la norme de la langue, est toujours présente dans les derniers textes, ce qui est, bon, c'est discutable si c'est vrai ou pas, mais ça marginalise la poésie dans l'approche de la langue et ça implique une didactique. Eh bien, quelle est cette didactique qui est sous-jacente? Les règles de la langue d'abord, leur effraction ensuite, et rejette l'approche de la poésie au cycle 3. C'est pas un hasard si dans les textes récents, toujours quand on parle de la poésie, c'est pour le cycle 3. Un tout petit peu au cycle 1, jamais au cycle 2. Il y a mieux à faire, apprendre à lire. Dernier point, ce n'est guère que dans la liste officielle et dans le document EDUSCOL, très intéressant ce document EDUSCOL de 2004, que se fait le lien entre poésie et société. Approche de thématiques sociales et historiques. La poésie n'est pas assez reliée à la construction de la personne dans sa dimension subjective et dans sa dimension sociale. Les deux devant être liés. Mais il y a une amorce là qui est intéressante. C'est un des points les plus intéressants de ce texte et du SCOL. Deuxième point que je voudrais aborder avec vous, la division de la poésie en activités. Hein? Ou poser d'une façon plus problématique, est-ce que la poésie se limite à la récitation? Il faut reprendre le débat récitation ou diction, même si les deux notions ne sont pas placées sur le même, au même niveau. Récitation, le plus vieux métier du monde pour l'écolier, est-elle en train de changer, d'évoluer? Eh bien, les I.O. de 1972 nous surprennent par leur précision et leur complexité. Le mot de récitation est déjà mi-récusé, mi-recontextualisé. C'est surtout par la récitation que la poésie apparaissait dans nos classes et l'on voyait dans cet exercice un moyen d'enseigner l'usage correct des mots et des tours de notre langue, etc. Le maître se trompe s'il s'attribue le choix des poèmes que les élèves devront être prêts à réciter, même s'ils ne les aiment pas. Bon, il y a déjà une remise en cause de la récitation. Bon, je n'ai peut-être pas le temps d'entrer dans le détail, mais ce mot récitation est mis, non pas en rapport, mais quand même, un petit peu, il est articulé avec diction, déjà en 72. Il parle, si la diction enregistrée est bien distincte, la diction du maître, le maître, il veillera à sa propre diction, communiquer aux élèves le sentiment des exigences de la diction ou le plaisir qu'apporte une diction juste. On privilégie ici la diction, la prononciation, l'articulation, mais peut-être pas à la façon contemporaine. Hein, ce n'est pas l'expérimentation de la subjectivité personnelle du récepteur. Car l'activité en 72 de diction reste très liée au droit du texte et de l'auteur. Son objectif fondamental est l'appropriation rigoureuse du mécanisme du poème, c'est-à-dire un mode d'énonciation et de connotation du sujet du poème lui-même, le sujet du poème au sens de Méchoudique. Car cette conformité-là permettrait d'entendre le poème, sa force d'émotion, qui est la vraie finalité de l'exercice. Je cite le texte de 72, « Le plaisir qu'apporte une diction juste permet ses exigences, on ne les poussera pas jusqu'au point de les gâter. » Alors, à cette première problématisation ou début d'articulation entre récitation et diction, viendront s'ajouter dans les années 95 quelque chose qui n'est pas une problématisation, c'est une proposition très consensuelle, en liaison avec les activités artistiques, musique, art visuel, danse, ou dans le cadre d'un projet, ils élaborent la mise en voix et la mise en scène des textes. Ça ne mange pas de pain. Qui n'est pas contredit par les documents d'application actuels, les poèmes ont une place à part dans ces activités de mise en voix. Toutefois, il ne faudrait en aucun cas réduire la lecture de la poésie au moment de récitation. Les poèmes se lisent ou s'écoutent comme la prose ou le théâtre. Ils supposent le même travail de compréhension et conduisent au même débat interprétatif. Dire un poème reste cependant un plaisir pour beaucoup d'élèves. Vous voyez, il y a beaucoup de lieux communs, il y a beaucoup de choses à discuter dans ces propositions assez floues en fait. La récitation n'est récusée que pour autant qu'elle serait la seule entrée dans la poésie. Voilà, l'acquis peut-être, l'acquis, c'était déjà acquis en 72. On semble ajouter à la récitation une activité peu définie qui tient de l'oralisation sans aller jusqu'à la diction. S'agit-il d'un travail sur la voix ou d'une mise en voix spontanée? Ce n'est pas très clair. Ce qui est intéressant dans le texte de 2004 d'EDUSCOL, c'est la communication sociale, intergénérationnelle, dit-on. Donc il y a un lien, une ouverture sur le monde qui est intéressant. Conclusion provisoire sur ce point, le départ entre récitation et diction n'est pas encore clairement établi. Il y a même une perte des derniers textes officiels sur ceux, me semble-t-il, plus innovants sur ce point de 72. On pourrait tenter de définir ces deux éléments nous-mêmes, de proposer une définition. la récitation comme restitution plus du côté de la conformation à des modèles, plus du côté du texte, de la langue, de l'oralisation visant l'homogénéisation. Dans la récitation, il y a toujours cette conformation à des modèles. La diction, eh bien, elle apparaît finalement avec deux définitions différentes en 72 et en 2004. Moi, je proposerai, il me semble qu'il y a une avancée là, potentielle dans les textes officiels, la diction comme réénonciation du texte, utilisant le corps comme second langage. Elle est plus du côté de la subjectivité, de la recréation, voire de l'expérimentation en 2004. Mais on a vu qu'en 72, il y avait une diction qui était très proche, qui se voulait très proche finalement de la voix de l'auteur et des droits inaliénables du texte. Sachant que toutes les gradations entre les deux sont possibles, l'inflexion vers l'un des pôles exprime des choix de posture éducative et culturelle. Ici, il existe bien, me semble-t-il, pour nous, une possibilité de transformation en douceur des pratiques, mal exploitées par les IO récentes. Et dans mes... je n'ai pas complètement dépouillé les questionnaires des maîtres, on sent très bien qu'ils adhèrent complètement à la récitation, mais en même temps, ils veulent la faire évoluer. Il me semble qu'ici, il y a un nœud très intéressant hein, de passage, et les enseignants, sur 200 ou 250 enseignants, semblent prêts, finalement, à aller dans cette direction-là. Deuxième activité sur laquelle je n'insisterai pas du tout, mais parce qu'elle est un peu floue, mais elle est intéressante. Siméon en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est le lire, présenter, choisir un texte, hein, s'approprier la poésie. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je passe au troisième point sur la question d'expliquer, interpréter dans les IO. Donc, ici se pose une question redoutable. Lequel des deux pôles est privilégié dans l'appropriation personnelle? Celui de la subjectivité du lecteur ou celui du sujet du poème auquel le lecteur serait convié à s'assimiler en 72, avec lequel il est convié à entrer en conversation, me semble-t-il, en 2004. On voit ici se poser la question du sujet et celle de la finalité de la culturation. D'un côté, connaître le patrimoine, en partager les valeurs. Hein, ce mot d'acculturation est très vague en 2002 et moi me gêne quelque part. Connaître le patrimoine, en partager les valeurs, ou bien dialoguer avec ce patrimoine pour construire sa propre sensibilité, voire sa propre culture. Il est évident que là aussi, toutes les gradations de l'arc-en-ciel existent. De façon semi-surprenante, au regard de l'époque, les IO de 72 refuse la voie de la compréhension par l'explication. Faut-il expliquer ces textes? Pose en question le texte de 72. On expliquera au besoin tel mot dont l'incompréhension serait un obstacle. Mais la paraphrase, la glose, le commentaire sont propres à détruire l'attrait poétique. Il est naturel que l'enfant voit plus tard de lui-même, dans un poème aimé qu'il aura retenu, des significations qui lui avaient d'abord échappé. Et mieux vaut renoncer à présenter un poème qui exigerait trop d'explications, etc. Donc ce refus se fait au nom de la liberté, de l'intimité et du temps. L'explication empêcherait le retentissement propre, le travail de l'imaginaire et de l'éventuel jugement esthétique. On peut dire que le dossier de 2004, d'Eduscol, est dans la continuité philosophique et didactique de celui de 72 sur ce point. Le poème n'a pas à être expliqué exhaustivement. Il faut faire confiance, dit-on, au poème qui travaille la langue autant que celui qui la reçoit. C'est quasiment ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure. En sourdine, dit-il, ce qui émerge plus nettement en 2004, c'est la cohérence de la démarche sémantique progressive et la découverte personnelle et sociale des effets de sens. J'aime beaucoup ce petit paragraphe dans Eduscol 2004 et qui va très loin et peut-être qui va dans ces directions didactiques que l'on cherchait déjà tout à l'heure. Même les petits incidents ou accidents de lecture pourront donner lieu à des élaborations de sens par les étonnements et les interrogations qu'ils provoquent, par les pistes à la création qu'ils ouvriront. Ça, c'est assez fort. On suggère ici ce qu'on appelle dans le jargon maintenant deux gestes professionnels d'experts, aussi rares que précieux. L'utilisation faite par le maître des tâtonnements et erreurs à des fins réflexives et interprétatives, et la mise en relation des activités. Oralisation, interprétation sémantique par débat contradictoire et peut-être écriture. J'en arrive à l'écriture. La question est la suivante. En reste-t-on à des exercices formels? Peut-on dépasser donc ce formalisme? Malheureusement, dans une conception formaliste des jeux d'écriture, dont le prototype est une référence pauvre à l'Oulipo, hein, je ne dis pas que l'Oulipo ce soit uniquement ça, les voies ludiques et créatives sont indistinctes. Les documents d'application s'en tiennent à une version ludique, restreinte, sous prétexte d'amorce efficace. Je lis le texte, 2002. En poésie, le pastiche est souvent une amorce efficace. Écrire à partir d'une structure formelle répétitive à la manière d'eux. On peut aussi aborder le travail de création de manière ludique, collage, cadavres exquis, contraintes du type de celle de l'Oulipo, le mot est figure. On peut encore créer des ateliers d'écriture à partir d'une recherche lexicale, etc. Ces indications reprennent pour partie les pistes formelles de 92. Les jeux stylistiques paraissent aussi très directement accessibles à l'enfant, peut-être de manière plus évidente encore lorsqu'ils articulent lecture et production de textes poétiques. Ce que je mets en jeu ici, ce ne sont pas les exercices en tant que tels, s'ils sont situés en amont, comme amorce de l'écriture, mais bien leur place et leur importance dans le dispositif. Le risque est bien, malgré la précaution oratoire de 2002, que ces exercices deviennent le tout de l'écriture. C'est ce qu'on voit dans les classes. Induisant un formalisme au lieu de promouvoir une libération de l'imaginaire face à la feuille blanche, ou ce que, selon un mot d'Alain Miossec dans mon groupe de recherche, ce qu'il appelle une autorisation à l'expérimentation. Les ateliers d'écriture dont il est fait mention en 2002 peuvent ouvrir d'autres voies. Le terme est suffisamment large et vague. Peut-être pas uniquement formaliste, mais bien créative. Dommage qu'elle ne soit pas précisée, exemplifiée, en plus ou à la place des voies les plus formelles qui, elles, figurent bien dans les textes officiels. Après avoir vu les activités en poésie, je voudrais voir le rapport entre la poésie et le français en général, les sous-disciplines du français. D'abord, la poésie dans son rapport à la littérature. La poésie est-elle un genre littéraire à part, comme le suggérait la mention de quelques cas d'école vus à l'UFM cette année en septembre 2007. Des I.O. Fontané de 1972 jusque dans les années 2000, la poésie a continué d'être traitée le plus souvent à part, citée en dernier point de la didactique du français dans toutes les années 70. Et aujourd'hui encore, relevé dans des dossiers spécifiques, un dossier spécifique sur la poésie dans ce document et du SCOL. Ce qui fait sens et question dans notre héritage culturel. Est-elle un genre égal ou un genre supérieur de la littérature, couronnant tous les autres, comme dans la tradition gréco-classique, ou encore un ailleurs, au risque de l'appendicite? La poésie, en 72, est le seul genre littéraire cité quand le reste de la littérature se trouve assimilé à la lecture, qui se fait alors sous la forme de morceaux choisis. Le poème, unité textuelle souvent brève, est envisagé dans son entier à l'époque, ce qui n'est pas le cas finalement des textes fictionnels. Il présente cet avantage-là. Le statut fragile de la poésie dans la littérature se lie aussi à un signe qui ne me semble pas vraiment conjuré aujourd'hui, la difficile cohabitation de la poésie et du récit. Dans les années 2002, sur la littérature, les documents sur la littérature en général opèrent le regroupement des trois genres majeurs, fiction, théâtre et poésie. Nous avons des documents là plus généraux. Mais en dépit de références à la poésie, c'est le genre fictionnel qui est hégémonique, tant pour la théorisation générale que pour l'exemplification. Reprenez les textes, vous verrez les éléments. Les notions de personnage, d'horizon d'attente, de temporalité, de spatialité, d'énonciation, de point de vue, voire de valeur, donc de valeur peut-être en osmose avec l'éducation civique, l'emporte sur les valeurs d'imaginaire, de langue, de connotation, et ont imposé la grille narratologique à la littérature. Entendez-moi bien, je ne veux pas dire que la notion de personne, même de personnage, ou la notion d'énonciation, etc., n'ont pas une prégnance en poésie. Mais ces éléments-là, donc, sont prélevés de la narratologie, donc, et sont posés, donc, dans tout le champ de la littérature. Alors, ce que je voudrais, moi, au contraire, comme le suggérait Siméon tout à l'heure, c'est que, moi, je voudrais revoir la notion de personnage à la lumière de la poésie. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage ? Et je lisais, justement, dans le train, hier soir, Tardieu, et là-dedans, Tardieu, la notion de personnage existe. Ou moi, ce que j'appelle un proto-personnage. Hein, il y a des nous, il y a des vous, il y a des ils, etc. Qu'est-ce que c'est que le personnage ? Et il me semble que la poésie pourrait réinformer le domaine de la littérature, y compris de la fiction. Qu'est-ce que c'est que la spatialité en poésie, etc. Il me semble qu'ici, nous avons une hégémonie du domaine de la fiction, et les concepts de la fiction donc sont diffusés comme si c'était, comme s'il n'y avait pas les deux autres genres. Avec le théâtre dans les textes officiels, avec le théâtre, les relations se renouent autour de la diction, avec un risque, me semble-t-il, on verra peut-être avec Sylvie Dardeillon ce soir, avec un risque de confusion entre deux types de dictions différents. Est-ce que c'est la même diction en poésie, en théâtre ? Personnellement, je pense que non. Hein ? Et peut-être, dans les textes, il est question sur le théâtre aussi, il est question de la notion de la poésie de la langue. Hein, terme complètement ambigu, une notion, etc., mais en même temps peut-être prometteur. Un retour au signifiant dans les deux genres de fiction et de théâtre où ils sont évacués en général. Pour autant, tout ce qui concerne la littérature générale n'est pas à rejeter pour le traitement didactique de la poésie. Les notions de lecture à haute voix, d'accord, d'interprétation, on l'a vu tout à l'heure, versus compréhension. Le débat interprétatif, il me semble qu'il faut qu'on peut se réapproprier cet élément, il est intéressant. Voire même le réseau, il me semble, mais en faire quelque chose d'autre avec la poésie. L'égalité entre les trois genres, il me semble qu'il n'existe, une fois encore, que dans les listes d'ouvrages conseillés. Les activités de poésie rejoignent-elles la normalité de la didactique de la littérature ? Un peu, hein, dans les dernières IO, ça me semble positif. Hein. Bon, la question est maintenant de savoir si ces activités sont articulées à celles plus générales du français. C'est le point suivant que je voudrais aborder. En dépit d'un titre général prometteur en 2004, « Maîtrise du langage et de la langue française », le document d'Eduscol sur la poésie ne fait pas le lien entre « maîtrise de la langue » donc et poésie, ni entre ORL, disons études de la langue et grammaire, et poésie. On pourrait en voir une trace, mais infime, dans l'articulation allusive entre comptine au cycle 1 et phonème, bien en deçà de ses possibilités. Mais rien n'est dit sur le lien possible de la poésie avec l'orthographe, la syntaxe, la ponctuation. Non pas, là non plus, que je veuille étudier, instrumentaliser la poésie au service d'une analyse de la langue, mais le lien n'est jamais fait. Pourquoi ? La poésie n'est jamais reliée à l'apprentissage de la lecture au cycle 2, ni même profondément à son pré-apprentissage au cycle 1, ni à la problématique des enfants en difficulté, des perturbations linguistiques. Il y a pourtant des textes là-dessus, eh bien, la poésie n'est jamais convoquée dans le débat. La poésie entre dans le domaine de la compréhension et de l'interprétation, nous l'avons vu tout à l'heure, mais l'articulation entre les compétences de lecture d'un poème et celles de lecture inférentielle, connotative, n'est jamais travaillée, n'est jamais montrée. Et il me semble qu'il y a un type de compétence de lecture, donc très intéressant, qui se travaille en poésie. Sur le rapport entre la poésie et l'oral et l'oralisation, donc l'oralisation est bien mentionnée, récitation, diction, lecture à haute voix, débat interprétatif de type argumentatif, mais on ne nous dit pas ce que la poésie apporterait à la construction de cette compétence. Or, je pense que la poésie peut apporter des choses. L'écrit lui-même est promu depuis plus de deux décennies, mais sans trouver sa place dans une politique de l'écriture. Il y aurait une réflexion passionnante à mener, je crois, entre poésie et type de texte ou type de séquence. La poésie dépassant ces typologies dont on voit depuis une dizaine d'années, d'ailleurs, la limite. Conclusion à ce niveau, la poésie est marginalisée dans la littérature, la poésie est marginalisée, selon les IO, hein, la poésie est marginalisée dans l'apprentissage de la langue et reste un secteur à part. Or, pour moi, la poésie... Oui, bon, j'y viens tout de suite. La poésie est victime d'une théorie fausse et réductrice en épistémologie et dangereuse en didactique. Donc, c'est cette théorie de l'écart, de la transgression, de la normalité, alors qu'il faudrait la voir, me semble-t-il, comme une pratique souvent expérimentale de la langue, créant un effet de loupe propice à mieux voir des phénomènes de langue, de textualité, de séquentialité. Toutes les fois que c'est un écart, une transgression, eh bien, on est dans le vieux schéma. Donc, les règles d'abord, on les transgresse ensuite au cycle 3 à l'université, et encore surtout pas à l'université, en fait. La poésie n'est pas utilisée didactiquement dans les grandes compétences du français, alors que, comme le théâtre, mais différemment de lui, elle réintroduit le corps et l'imaginaire dans la langue. Enfin, dernier point, la poésie au service d'une écologie de l'apprentissage et de la construction de la personne, au service d'une éthique. La poésie et les autres arts. Une articulation sans suite à construire. En 2004, je relève cette phrase, la poésie s'inscrit au croisement de deux domaines que l'école a plutôt coutume de tenir disjoints quand elle identifie les territoires de la maîtrise de la langue et de l'éducation artistique. On le regrette, on nous dit qu'il faudrait faire ce lien, mais jamais on ne nous dit comment. La poésie est l'approche du corps, EPS, danse. Donc là, il n'y a pas de mise en rapport. La poésie et les sciences, la nostalgie, il y a une nostalgie de cette rupture dans le texte de 72, il faudrait peut-être la repenser. Enfin, la poésie et l'éthique. La place immense faite à l'éthique en 72, éthique de la responsabilité, du respect, de l'émotion, entre en écho avec le retour de l'éthique depuis 2002. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant dans les textes de 2002 qui articule assez bien la subjectivité, le retentissement personnel du texte et le partage social, la communication intergénérationnelle. Il y a bien l'amorce d'un retour de la poésie ici au premier plan. Mais je crois qu'il y a un risque concomitant. Justement, sur cette citoyenneté, ces valeurs. Et j'en prendrai pour exemple ce que disait l'IPR qui dirige le concours de français et de littérature de jeunesse. Elle insistait énormément donc sur ces valeurs. Il me semble qu'il y a, un contresens qui risque d'être fait très facilement. Donc, la littérature et la poésie donc mettraient en scène les valeurs. Et très souvent, je ne sais pas si ça vous est arrivé, donc on me demande aussi bien des albums que des poèmes qui parleraient de la différence. Et moi, je dis des poèmes qui parlent de la différence, ils ne m'intéressent pas. Les poèmes qui parlent, qui thématisent la liberté ou la subjectivité, ça ne m'intéresse pas complètement. Mais ce qui m'intéresse, c'est les valeurs à un autre niveau. Et la poésie ici peut nous apporter. Parce que la poésie est forcément liberté dans la langue. La poésie est forcément différence. Et voyez-le dans les auteurs, dans les différences d'écriture. Mais je pense aussi dans cet atelier d'écriture qui est mentionné avec l'exemple d'étoile dans votre trame, un enfant qui était malpropre dans la classe, qui faisait caca hein, dans la classe, et qui, dans un atelier d'écriture, au milieu de l'année, dit « Il pue le porc, il faut le tuer !» Eh bien, cet enfant qui se constitue un statut à partir de là et qui est mieux accepté dans la classe à partir de cette force, de cette phrase, eh bien, il me semble que la différence, elle est dans le langage, dans la prise de langage, dans l'acceptation par les autres du langage. Les valeurs, on peut les construire, on peut avoir un rôle ici très intéressant, mais à un autre niveau. Une étudiante m'a demandé récemment de travailler poésie, atelier de philosophie. On essaiera de travailler dans cette direction. Alors, vous avez ensuite donc des exemples. Peut-être dans la conversation, on reviendra sur donc la partie plus didactique sur le cycle 2. Je vois qu'on ne me fait pas signe et qu'on me laisse faire.
On a du temps.
Ah bon ?
Oui, on a encore une dizaine de minutes.
Je suis peut-être moi aussi allé un petit peu trop vite. Alors, moi je vais peut-être aller à ma conclusion et puis ensuite on reviendra sur deux exemples peut-être. Un atelier d'écriture mené par une maîtresse formatrice, Claire Escuyer, dans le groupe Alep, au CP avec ses enfants, avec tous les enfants, parce que on travaille avec les enfants en difficulté, mais dans le cadre d'un atelier où tout le monde participe. Et ça profite aussi beaucoup aux enfants sans difficultés scolaires apparentes, mais qui ne prennent pas toujours énormément de risques. Et puis un autre travail dans une autre classe où on avait eu la séquence suivante en CP. Vous avez l'interview en 2-2. Vous avez enfin 2-2, c'est peut-être pas numéroté de cette façon. Je vous donne le contexte scolaire. C'était à partir d'un texte de James Sacré. Un jour, la maison rêve, on a le cœur qui s'en va loin, comme des oiseaux fragiles dans la couleur tendre et légère. Quelque chose ressemble à la joue d'une pluie d'été dans les fleurs. On a du pollen dans les yeux, la maison brille. Donc, on a commencé par travailler de la façon suivante. Le maître a lu le texte d'une façon quasiment neutre. Ensuite, il y a eu un atelier de diction. Ensuite, donc, à partir de là, il y a eu un travail. L'atelier de diction se faisait par demi-classe, une douzaine. Ensuite, il y a eu un travail d'interprétation. Ce qui me semble intéressant ici, c'est que l'interprétation, et ça rejoint peut-être ce que disait Jean-Pierre Siméon tout à l'heure, l'atelier donc d'interprétation venait après l'atelier de diction. Et puis après, il y a eu un petit moment d'écriture pour savoir ce que les enfants avaient retenu du texte. À la suite de ça, j'ai fait des interviews avec 3 ou 4 enfants dits par la maîtresse en difficulté d'apprentissage de lecture, et puis avec 2 ou 3 enfants, au contraire, très à l'aise. Et j'étais très étonné de ce que les enfants pouvaient dire. On reviendra peut-être là-dessus. Je voudrais aller à ma conclusion, et puis ensuite on reviendra selon le temps qu'on aura. Alors la conclusion n'est pas, puisqu'elle portait sur les deux parties, à la fois les IO et les travaux des enfants, la conclusion n'est pas fondée. Donc on la prend comme des éléments plutôt à problématiser. Il me semble que le lien entre les activités de poésie semble capital. Donc c'est la première proposition. Depuis 20 ou 30 ans, il me semble qu'il est fait de plus en plus. Mais le travail, je viens de le dire, le travail de la diction et le travail de l'interprétation, nouer les deux. Donc on a une qualité de parole des enfants. Donc quand on a travaillé, j'allais dire d'abord sur le corps, quand on a travaillé d'abord sur une appréhension, l'attention, une attention de tous les sens, comme le disait Jean-Pierre à l'instant. Le passage par le corps et la diction suscite une discussion et un investissement beaucoup plus grand que le débat interprétatif seul, précédé d'une lecture du maître. Donc, même si les enfants, on a l'impression que les enfants font un peu n'importe quoi, disent un peu n'importe quoi, prennent les enfants, à un moment, les enfants, puisque j'ai mené avec un demi-groupe la séance, les enfants me disent « Est-ce qu'on a le droit de crier ?» Et j'étais très gêné, j'ai dit « Bon, oui, on a le droit de crier, mais on va faire en sorte de ne pas crier trop fort pour que les autres classes, etc. » Et alors, il y a un enfant qui a crié sans cesse. Et c'était assez perturbant, mais au moment de l'interprétation sémantique, ce groupe-là a fait des interprétations beaucoup plus riches que l'autre groupe qui ne s'était pas permis ça. Donc il me semble, par rapport aux IO, que la séquence interprétation sémantique diction pourrait être inversée. Les 3 activités, donc diction, interprétation sémantique et écriture s'enrichirait. Et là, on est d'accord, là, Siméon, Sylvie Dardaillon, donc, sur le rôle très important de la diction, du travail sur la diction, mais un travail exploratoire, d'expérimentation de la voix. Le rapport à d'autres arts mettant en jeu le corps et l'émotion semble un atout aussi très important. Dans les textes d'Étoile, il y a eu un projet sur la danse. On a vu une autre classe venir présenter un travail sur la danse. Et donc, ça enrichit véritablement le travail sur la poésie. 6e proposition. Dans la diction, dans l'écriture, dans l'interprétation sémantique, c'est l'image de l'enfant qui se joue même. La poésie travaille sur l'imaginaire, sur la personne, l'inclut au lieu de l'écarter comme élément perturbateur. Je pars de quoi, là, pour affirmer cela? Bon, dans l'exemple, dans l'interview de F, cet enfant de CP, à un moment, donc premier temps, donc travail sur l'addiction. Deuxième temps, interprétation. Et cet enfant me dit, il dit dans le groupe de 12, il dit, moi je vois une maison avec des lettres et des chiffres, une maison qui brille avec des lettres et des chiffres. Et moi, je ne peux pas accepter cette interprétation. Je lui dis, mais où est-ce que tu vois des lettres et des chiffres? Et donc, je la récuse d'une certaine manière, cette interprétation. Elle est divergente. Et au moment de l'entretien avec lui, donc l'entretien duel, il revient là-dessus. Et il me dit, il y a une maison des lettres et des chiffres. Je suis très étonné. Et alors là encore, je fais une deuxième bêtise professionnelle d'une certaine manière. Je lui dis, mais où tu as appris ça? Dans des dessins animés, dans cette culture, etc. Il me dit, oui, bon. Et puis je me rends compte au fur et à mesure qu'il insiste sur une seule chose qu'il se rappelle de ce texte. C'est qu'il sait lire, c'est qu'il commence à lire, c'est qu'il entre, etc. Et ce poème même, eh bien, devient la maison des lettres et des chiffres. Où c'est l'école, je ne sais pas, qui se met à briller, etc. Et le poème devient son envie de lire. Donc, il y a une imagination complètement divergente, mais en même temps, cette imagination divergente, elle l'amène à la poésie. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette imagination divergente, au lieu d'être réfrénée, elle doit être... elle marque une étape d'acculturation beaucoup plus grande que l'enfant qui cite simplement deux ou trois mots en disant « voilà ce que je retiens du poème ». Sachant que prélever deux ou trois mots, c'est Alain Miossec qui dit ça dans le groupe, c'est déjà un travail sur la poésie. Ce n'est pas rien. C'est déjà faire du sens, c'est déjà proposer des articulations. Mais celui qui va comme ça, qui propose, il voit des chevaux, il voit ceci, etc. Nous, on a tendance à le récuser, alors que c'est un moment très intéressant. Et il me semble, du moins au cycle 2, mais je pense que ce n'est pas une question de cycle 2, etc. Et alors, on parlait tout à l'heure des stagiaires de PE2. Je propose le même texte. Il y a une stagiaire, au demeurant, qui a ensuite fait un mémoire de poésie avec moi. Elle se met complètement en colère par rapport aux autres dans l'interprétation. Elle dit, bon, vous dites ça, etc. Mais moi, ce que j'ai à dire, c'est différent. Je ne sais pas s'il y a un rapport au texte, mais dans ma famille, on a vendu aussi une maison. Et puis, c'était la maison de mes parents, etc. Et elle parle uniquement d'elle. Mais en parlant d'elle, elle parle complètement de Jam Sacré. Elle retrouve complètement Jam Sacré. Deuxième geste professionnel avec ce petit garçon, F, puisque on a décidé de ne, par déontologie de ne pas donner son nom ni son prénom. Donc, il dit à un moment de Jam Sacré et du texte et cette ouverture sociale, il dit, alors à quoi ça sert la poésie, je lui pose comme question. Il me dit, ça sert à devenir ami quand on s'est battu avec les autres. Donc, fonction sociale étonnante, là aussi. Enjeu étonnant pour lui. Et alors, je le fais expliquer un petit peu, et il maintient ça. Et je lui dis, mais tu sais, Jam Sacré dit presque la même chose. Il parle de l'amitié de la poésie, il parle de l'amitié du langage dans la poésie. Et si vous aviez vu ce petit garçon qui a des difficultés d'apprendre, son visage s'est complètement illuminé. Il a fait une rencontre humaine. Donc là, le geste professionnel, c'était d'être surpris d'exclure, de faire entrer cette prise là, cette parole là, dans quelque chose d'autre. Et ce qui est finalement très très difficile, y compris pour nous, parce que vous voyez, deux fois j'ai été très réticent par rapport à ces propositions sur cette maison. Bon, voilà sur ce point là donc peut-être conclure sur le dernier point là, sur la conclusion. L'enseignement de la poésie est difficile en classe, oui, bon, on revient à ça, car il demande de l'expertise, oui, une posture peut-être plus qu'une expertise, une prise en compte de l'enfant dans ses dimensions cognitives, émotives, subjectives, imaginaires, une mise en relation des activités de poésie, de celle-ci avec la littérature et les arts, oui, mais il demande cette disponibilité. Cette maîtresse, peut-être que j'abuse un peu là, mais on va vers le texte de Claire Escuyer avec cet enfant qui la plus mal à l'aise donc en lecture. Et dans une série de productions, d'abord dictées à la maîtresse, Elle dicte ceci, c'est l'élément fin avril. « Étoile a fait vol vers le ciel et... » C'est pas grand-chose, ça. Et la plupart des maîtres vont pas trouver que c'est extraordinaire. « Étoile a fait vol, etc. » Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle coupe un syntagme. « Vol vers le ciel. » Regardez, « Vol, étoile a fait vol vers le ciel et... » Et la maîtresse sent, geste professionnel, la maîtresse sent que l'élève souhaite couper ici. Et au lieu de récuser ça en disant « mais non, on ne coupe pas », donc elle lui permet, elle l'autorise à faire ça. Et vous allez voir qu'ensuite, dans les autres textes, sans cesse, elle fait cette petite chose, hein, cet enjambement. Petit chat, 5, 11 mai, petit chat a un pull qui vole. C'est-à-dire, et même la maîtresse a appris dans le groupe Alep qu'il va falloir le lire à haute voix son texte comme ça, c'est-à-dire en respectant le vers. Moi, je dis, hein, les textes officiels ne le disent pas, comment on lit un poème. Je crois qu'il faut lire les deux unités. Il faut lire le vers et la phrase. La plupart ne lisent que la phrase, donc le sens. Il faut lire aussi le vers. Mais il faut lire les deux. Et alors, ça serait quelque chose comme « Petit chat a un pull qui vole, petit dauphin saute, l'étoile met son pull, arc-en-ciel joue avec le soleil. » Et quand on fait entendre ce texte comme ça aux enfants, ça devient pour eux de la poésie aussi. Et il se passe quelque chose dans cette interaction. Donc, ce travail, vous voyez, sur... Alors, je finirai peut-être là-dessus, hein, parce que... Mais donc, le chantier est énorme. C'est que la poésie, vous voyez, à ce niveau-là... Et pourquoi la poésie peut aider l'enfant à apprendre à lire, d'une certaine manière, et autrement? C'est que la poésie, c'est ma grande hypothèse, sur le cycle 2, et en général, la poésie, par sa définition même, problématique, mais par sa définition même, nous fait écouter la langue autrement, nous met dans une position que je dirais, j'emploie du jargon, excusez-moi, non pas méta-linguistique, mais quelque chose avec Gombert qu'on va appeler épi-linguistique. Épi, c'est pas tout à fait méta, c'est-à-dire que la poésie, c'est pas de la grammaire. Moi, je pense que c'est de la grammaire en pratique. Hein. Mais la poésie nous arrête sur les mots, nous fait faire attention aux mots. Et cet élève, en écrivant et en coupant les syntagmes, elle est en train de découvrir le syntagme d'une certaine manière. Elle est en train de jouer avec lui. Et elle acquiert cette compétence, non pas métalinguistique, bon, ça serait trop, etc. Et puis, le but de la poésie, c'est pas ça non plus. Mais elle s'arrête sur la langue, elle commence à entendre la langue. Et entendant la langue, je fais le pari qu'elle commence à entendre aussi la façon d'entrer dans l'écrit, parce que pour entrer dans l'écrit, là je serai en partie d'accord, en grande partie d'accord avec les cognitivistes, il faut avoir une position pour apprendre à lire, avoir une position de distanciation. Eh bien la poésie, à la fois elle est cette empathie, de la langue et du poème, mais elle est aussi une mise à distance, mais une mise à distance très particulière, et il me semble qu'ici, on a un chantier très intéressant, et pour notre compte, les enfants en difficulté, beaucoup des enfants en difficulté, donc qu'on élabore un autre rapport à la langue par la poésie au cycle 2, cycle 2 qui n'est pas mentionné jamais pour la poésie dans les IO.